les élus, hein, mais que bah, notre association a organisé. Donc j'ai animé ces 9 réunions. Deux par thème, deux sur le thème de démocratie et citoyenneté, deux sur le thème de fiscalité et dépenses publiques, deux sur l'écologie et deux sur justement les services publics. Et on a fait un petit peu le même travail qu'on a fait ici. On s'est penché, évidemment, à partir de la trame proposée par le questionnaire, qu'on a suivi, si on avait envie de le suivre, hein, on n'était absolument pas conditionné par le cadre que nous proposait la commission du grand débat. Quand on trouvait qu'une question n'était pas intéressante, on le disait, et les restitutions, évidemment, ont tenu compte de tout ça. Et on a fait, sur la notion de service public, exactement la même remarque. On a été amené à faire la même remarque qu'ici, c'est-à-dire que on nous demande de discuter sur les services publics, mais on ne sait pas ce que c'est pas défini, c'est pas cadré au niveau de la Constitution. Et ça rend finalement la discussion extrêmement peu précise, dans la mesure où l'arbitraire règne en maître dans cette affaire. Donc, à partir de l'article 9 qui fait apparaître la notion de service public, on a balayé également le 10, 11, 12, 13. Et on en est, je pense, au 14, si je ne me suis pas trompé dans les petites notes. Donc le 14 dit « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international et n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » Décidément, ce préambule de la Constitution de 1946, il est...
extraordinaire.
Il est d'une...
Parce qu'on a fait la guerre d'Algérie derrière.
Ah non, mais il est incroyable. Alors, c'est,
la vue de conquête...
C'est le volet constitutionnel le moins connu qui s'applique avec toute sa force, puisqu'il est partie intégrante de la Constitution, mais qui contient des préceptes, des prescriptions, et qui sont
systématiquement
qui sont systématiquement pas suivies, ou bien, comme pour les services publics, qui soulèvent une notion qui, faute d'être bien définie, aboutit aux abus que l'on sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affirmation ? La République française, fidèle à ses traditions. Alors, fidèle à ses traditions, je me demande vraiment quelles sont les traditions. Les traditions de ne pas aller emmerder ses voisins, je ne sais pas si c'est vraiment la tradition. Si on prend... Après, il est plutôt enfin, humaniste et vertueux, cet article, mais à mon avis, il démarre très, très mal, parce que... Oui, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Non, ça, la phrase s'arrête là. Oui. Bon. La République française a pour tradition de se conformer aux règles du droit public international. Bon, oui, à peu près, hein. Bon, sauf Napoléon, il disait les traités, c'est un chiffon de papier.
Le premier ou trois?
Le
premier.
Oui, le premier. Oui.
C'est quoi le droit public international?
Le droit public international, c'est les traités. C'est les traités, et puis c'est récemment des cours internationales, par exemple la Déclaration universelle. Alors, pas confondre la Déclaration universelle des droits de l'homme avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est franco-française. Déclaration universelle, c'est un truc qui a été pendu par l'ONU.
C'est surcoté par
l'ONU, oui. Bon, je sais pas, il n'y a peut-être pas grand chose à dire là-dessus.
Là, tu t'en vas.
J'ai voulu être trop chaud, je transpirais, voilà. Bon, filet. Bon, je pense qu'il faut, il faut interpréter cette première partie de, d'article comme une, bon, comme une contrainte qu'on se donne. Et on dit la République française, c'est une, un pays, c'est une République qui respecte le droit public international.
Ouais.
Hein, on affirme dans la Constitution qu'on respecte les traités. Mmh. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus.
Mmh. C'est après que ça fluque.
Alors, après, ah, oui, ce n'est pas du tout de même nature, hein, ça n'a rien à voir, hein, on respecte les droits publics internationaux. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Donc on a juste fait
oui.
Les Vietnam et l'Algérie.
Oui, enfin,
entre autres.
Ouais.
Ben, après 1946. Hein.
Ouais,
oui,
mais c'était des c'était pas des conquêtes.
Non, mais la liberté d'aucun peuple.
Oui, pour la deuxième partie.
En 54, c'était l'Indochine qui est devenue Vietnam pour les Américains.
Oui.
C'est quand même une conquête.
Non, ça appartenait
à la France. En 54, c'était en France, pas en France.
C'était le début de la guerre du Yémen.
C'était la France. Non, c'est 46.
Alors c'est antérieur, hein.
C'est 46,
la, la conquête de l'Algérie,
oui, c'est
pas de l'Empire, l'Empire français avec la, la, l'AEF et aussi, bon, c'est antérieur à 46.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Bon.
Oui, c'était la fin de Charles X, le début de Louis-Philippe, la conquête de l'Algérie.
Oui.
Contre les peuples.
Bon, donc effectivement, après 1946, il n'y a pas eu de guerre de conquête.
Ah, d'accord, on s'en fout.
C'est une façon de dire.
D'abord, c'était pas des guerres. Ils appelaient ça comment?
Pour l'Algérie, c'était le maintien de l'ordre.
C'était un maintien de l'ordre. C'est pas une guerre.
Ah, c'était un maintien de l'ordre lorsqu'il y a eu des mouvements. Mais lorsqu'on est allé en Algérie pour dire ces territoires français, c'est bien une guerre de conquête.
Ah oui, mais c'était avant 46.
Voilà, c'était avant 46. Voilà, donc après 46, il n'y a pas eu de guerre de conquête.
C'était le maintien des territoires.
Non, c'est plutôt la deuxième partie de phrase qui...
Contre la liberté d'aucun
n'emplaira jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que c'est que la liberté d'un peuple ? Est-ce qu'un peuple, bon, je vais prendre exprès un sujet explosif, la Syrie, bon, qui a demandé, qui nous a demandé d'intervenir en Syrie?
Ben, c'est pas le peuple.
C'est un groupe, des opposants.
Par exemple, quelle est la volonté du peuple syrien? Alors, on va dire, faut pas intervenir contre la liberté du peuple syrien. Qui c'est le peuple syrien? Pas facile, hein?
Non. Ben, ils étaient libres et ils n'en sont plus devenus. Donc, il y a une conquête pour les libérer, en fait.
Ah oui, bon, ça c'est nous qui décidons. Hein.
Ouais.
Parce que ce qui se passe à l'intérieur d'un pays, bon.
C'est une guerre civile, hein.
Par exemple, en France, quand il y a eu la Révolution française, avec les émigrés autour, qui est-ce qui c'était le peuple bon. Alors, c'est pas forcément, c'est pas, moi ça me semble pas très clair de dire contre la liberté d'aucun peuple. Ce qui serait plus clair, c'est de dire aucune ingérence dans un État souverain. C'est-à-dire, un État souverain, même s'il est dirigé par un dictateur, c'est pas nos oignons. Ben, je veux dire, c'est une façon de dire.
Ouais.
Dans la mesure où nous, on n'a pas toujours été aussi blanc-bleu au niveau dictateur.
Ah bon.
Ce fameux droit d'ingérence qui est bien postérieur à ce préambule, enfin à la Constitution de 58, droit d'ingérence qui est. C'est l'ONU qui a. Mais ça, c'est-à-dire que les pays puissants se sont mis à dire nous allons décider si dans tel et tel pays ça se passe comme il faut, c'est démocratique, et si nous estimons que dans tel pays, il y a un régime qui n'est pas démocratique, tel que nous, qui n'est pas libre, etc., on a le droit d'intervenir.
Après, derrière, il peut y avoir une idée noble, dans le sens de dire quand il y a une partie d'un peuple qui est massacré, pour des raisons religieuses, ethniques ou autres, la raison neuve, c'est de dire que voilà, l'ONU va intervenir pour sauver cette minorité qui est massacrée. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça
se
fait pas comme ça. C'est
pas l'ONU, c'est la
République française. Oui, non, mais là,
souvent,
on parle des deux, du coup.
Mais souvent, en fait, voilà, parce qu'on est d'accord, que souvent, elle intervient par le biais de. Là, le côté noble serait ça. En fait, c'est pas ce qui se passe. Donc, dans l'ingérence, peut-être que l'ONU a dans le but de dire, en effet, si pour sauver quelque chose, qu'on va aller. Et que.
Alors là, on a dévié sur l'ingérence, mais l'article 14 ne parle pas d'ingérence. Il dit on n'emploiera pas, on n'emploiera pas nos forces contre la liberté d'aucun peuple. Contre la liberté d'un peuple.
Alors est-ce qu'on a.
Bon, alors bon, si on veut voir le contraire de ça, par exemple, on a le peuple algérien qui se soulève.
Oui.
On agit contre la liberté du peuple algérien.
Moi, je vois comme ça.
Ah, mais ça, c'est évident.
Ou un chinois. Non, parce qu'à l'époque, ils considéraient.
Oui, oui.
La question, c'est qu'il y a.
C'est exactement ce qui se passe avec les gilets jaunes.
C'est qu'au départ, c'était une minorité qui s'était soulevée.
Oui, mais alors, attendez.
C'était la question de la proportion. C'est comme au Vietnam. Au Vietnam, il y avait des Vietnamiens qui étaient pour la France.
Oui, bien sûr.
C'est
toujours
compliqué.
Ça, je veux dire. Donc,
est-ce qu'il faut pas dire qu'il faut jamais.
Mais alors finalement, est-ce que cette phrase a un sens? Parce que ne pas employer ses forces contre la liberté d'un peuple, soit on considère que tous les pays sont souverains. À ce moment-là, un pays souverain, par exemple la Syrie est souveraine.
Mmh.
Elle a un dictateur qui est souveraine.
Mmh.
Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'un peuple?
Ben, qu'ils soient libres, en fait, à la limite, on les laisse libres de se débrouiller tout seuls, alors, aussi.
Oui.
Donc, s'il n'y a pas d'ingérence, c'est compliqué, quoi, parce qu'à la limite, ça a plus de sens, ça, maintenant.
Et puis, un même pays n'a pas qu'un peuple, enfin...
Oui.
Oui.
Oui, mais nous il faut qu'on interprète cette phrase. C'est la constitution. Une phrase, elle nous permet de faire des choses, elle nous interdit de faire d'autres choses. Donc, quand on lit cette phrase, hein, on est en charge des affaires de France, hein, par exemple, on est le gouvernement là, et puis on lit nous n'emploierons jamais nos forces contre la liberté d'aucun peuple.
On n'emploiera la force que pour libérer le peuple. Voilà.
On va pas agir contre la liberté d'un peuple.
Ça suppose qu'il y a une homogénéité dans le temps d'une nation.
On ne va pas. Cette phrase nous dit nous n'avons pas le droit d'agir militairement contre la liberté d'un peuple. C'est bien ça. Alors, nous n'avons pas le droit d'agir militairement contre la liberté d'un peuple.
Comme on dit dans le même pays, quand il y a deux peuples qui
s'opposent,
on va se mettre à côté avec
qui on veut.
Et puis de quel peuple,
quoi.
La liberté d'un peuple, c'est.
C'est démocratique, quoi.
Ça veut peut-être dire la liberté d'un pays. Donc c'est un pays, c'est un peuple, c'est un pays. On va pas intervenir.
On va pas rentrer dans les détails ethniques du.
Non. Peuple, c'est pas clair, peuple. Hein.
Non, non,
c'est pas clair. Hein. Aucune guerre dans des vues de conquête. Bon, ça c'est clair. On va pas les conquérir. On va pas agir contre la liberté d'un peuple. C'est absolument pas clair. Pas précis, ça.
Enfin, la guerre d'Algérie.
Tu trouves que c'est précis?
Non, c'est pas précis du tout. Ouais. Je dis la guerre d'Algérie, c'était quand même bien dans un but de conquête, de au moins garder le pétrole.
Non, c'était pas. Alors, non, mais attends, alors, bon, je me fais l'avocat du diable.
Ouais, je vois bien.
Mais bon, c'est pour essayer de. Enfin, la constitution de 1946, elle entérine le fait que l'Algérie, c'est la France, c'est un département français. On est l'Indochine aussi. Après, bon, c'est passé avant, parce que sinon, si tu remontes avant, alors Clovis aussi, les Francs, ils sont arrivés, ils ont, bon, si on se remet à remonter, on voit un peu comment s'est constituée la France, bon, il y avait les Gaulois, et avant les Gaulois, il y avait les Celtes. Bon, donc, le territoire, il appartient à qui? Donc là, on est obligé de partir dans ça. Donc là, on part
de 46.
On part de 46 et on dit aucune guerre de conquête. Bon, sans guerre de conquête, bon, ça va, c'est bon, on n'a pas fait. Okay. Par contre, on ne va pas agir contre la liberté des peuples.
Par contre, quand c'est marqué comme ça avec un peuple, il ne parle pas de son peuple, du peuple de la République française. Donc par exemple, l'Algérie, ça, c'est encore hors champ. C'est par rapport à un peuple étranger à la
France. C'est pour ça que ce n'était pas considéré comme une guerre. Par le gouvernement à l'époque, qui disait que c'était du maintien de l'ordre.
Absolument. Je me souviens de Mitterrand, hein, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et pendant les premières agitations.
C'est lui qui a monté les.
Et c'est lui qui a fait avec mon.
C'est un département,
hein, oui, c'est un département.
Je pense que c'était du maintien de l'ordre.
Oui, mais alors, bon, alors. Ne pas employer la force militaire contre la liberté d'aucun peuple, ça n'est pas clair. Ça n'est pas clair. On ne voit pas ce que ça veut dire.
Ben, donc un peuple, ça comprend, y compris le peuple français, quand même. Non ?
Non.
Oui, mais c'est la notion. Bon, voilà. Dans notre on analyse critique, hein, on regarde clarté, cohérence. Bon, c'est cohérent et clair, les votes conquêtes. La liberté d'aucun peuple, ça n'est pas clair. Cette phrase n'est pas claire.
Et ça peut être la France, parce qu'on ne va pas conquérir un pays qui nous appartient déjà.
Non, c'est pas la France. Non, mais il n'y a pas de
sens. Donc déjà, c'est la France. C'est sûr, c'est l'étranger.
Il y a la conquête d'un côté, mais en plus, n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Bon. Et moi, aucun peu, je n'y comprends pas français.
Bon, c'est pas clair, hein. On peut rien en tirer de cette phrase. Hein.
Pas grand chose.
On peut rien en tirer parce qu'on nous dit, on ne dit pas ce que c'est qu'un peuple. Bon, s'il y avait liberté d'aucun pays, en fait, ça revient à la guerre de conquête. Alors, à la fois, on ne peut rien en tirer. Et à la fois, on peut en tirer ce qu'on veut, parce que c'est pas clair. Hein. C'est-à-dire que si dans un pays, effectivement, il y a plusieurs peuples qui se battent entre eux, et qu'on considère qu'il y a un peuple qui est opprimé par d'autres peuples, on va prendre la défense. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Hein. On n'a pas entrepris de guerre de conquête, mais on est intervenu. On est intervenu au Congo Kinshasa, on est intervenu en Syrie, on est intervenu en Afghanistan. Voilà. Bon. Donc c'est le type même de phrase qui permet de ne rien faire ou de... Ouais. Bon. Alors, ensuite, 15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, je relis, hein. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
C'est pour permettre de se mettre sous l'OTAN ? Elle n'y était pas pourtant. Mais...
Si, si. Ah ben, si.
Si, on l'a dit.
Eh oui. De Gaulle, on est parti. Mais après la guerre, il y avait l'occupation conjointe de l'Allemagne. Et puis.
Oui, c'est ça.
Et puis il y avait l'OTAN.
Donc c'était pour pouvoir se mettre sous la tutelle de l'OTAN.
Oui, oui. Sous réserve de réciprocité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit les seuls à le faire. Limitation de souveraineté, c'est-à-dire qu'on n'est pas souverain à partir du moment où il y a une armée internationale qui nous chapeaute. À l'organisation et à la défense de la paix. Bon, la paix, c'est celle qu'on a établie après 45. Hein, c'est fait pour ça. Alors, finalement, De Gaulle, quand il a quitté l'OTAN, il aurait pu aussi faire cette modification constitutionnelle et l'enlever. Hein. Alors, aujourd'hui, attendez, parce qu'aujourd'hui, il y a l'Europe. Et c'était l'immigration de souveraineté qui ne sont pas de l'immigration de souveraineté militaire. Ah, c'est tout simplement le Conseil de l'Europe. Le Conseil. Ah bah oui, les lois. Et une sacrée limitation de souveraineté, parce qu'il y a des lois qui s'appliquent et qui sont supranationales.
Bon. Justement, et tout ça, ça va.
Alors, oui, mais alors du coup, là, on n'est pas vraiment d'accord, parce que sur réserve de réciprocité, bon d'accord. Consent aux limitations de souveraineté nécessaires.
À l'organisation.
À l'organisation de la défense de la paix. L'Europe, c'est pas l'OTAN, bah, oui. Ah non.
C'est un peu le prétexte.
Non.
Même pas d'armée commune.
Non. Voilà. Non. Effectivement. Non.
C'est le prétexte.
C'est pas. Non.
Genre avec l'Union européenne, on risque pas d'avoir.
Oui, non, ça, c'est ce que disent.
Voyons.
C'est ce que disent les gens, mais la construction européenne.
C'est pas fait pour ça.
Dans les statuts d'Europe, bon, il n'est pas. Ça n'a pas été. C'est pas. Non. C'est une organisation économique. Hein? C'est un marché économique pour la bonne santé de l'économie. Donc, ça c'est quand même très important, le 15, parce que du coup là on a un problème de cohérence. C'est très clair. Hein? C'est très clair et très précis le 15. C'est-à-dire que, sous réserve de réciprocité, bon, d'accord, on peut consentir des limitations de souveraineté pour organiser la paix. Bah, pour des motifs de paix militaire, paix civile. Or, l'Europe
consent
très clairement, c'est un objectif économique. C'est un objectif d'union économique et pas d'organiser. Il faudrait ajouter à l'organisation d'un marché économique commun.
Mais c'est pas le fait.
Voilà. Oui.
Mais c'est pas mal.
En tout cas, cet article 15 pose problème. Il pourrait être utilisé dans le cadre d'une contestation
de l'Union européenne.
Donc c'est bon à savoir. Hein. Vous voyez qu'on soulève les lièvres. Hein. Oui.
Également, enfin, bonjour. Ce qui pourrait contester également cet article, c'est quand même la Déclaration des droits de l'homme. Il parle que la souveraineté est essentielle dans la nation, réside essentiellement dans la nation. Donc là, on n'est plus comme avec l'Europe, c'est plus la nation qui est souveraine, c'est l'Europe. Donc déjà, par rapport à la déclaration, l'Europe, en théorie, n'aurait jamais dû exister déjà.
Oui, tout à fait d'accord. Mais là.
Alors, encore le.
Oui, mais.
L'Europe n'est pas.
L'idée juridique de l'article 15, c'est d'établir une dérogation par rapport à la souveraineté.
Oui, mais normalement, la
déclaration. Mais elle donne le cadre à des dérogations. Elle dit on peut déroger à la souveraineté pour les histoires de maintien de la paix.
Mais normalement, par rapport à la déclaration de l'homme, on
n'a
pas le droit de déroger à ça.
Oui, mais justement, cet article déroge.
Elle déroge, mais normalement, on ne devrait pas, parce que c'est au-dessus de la déclaration des droits de l'homme.
C'est pareil. C'est pas au-dessus, c'est pareil. Hein.
C'est pareil.
On a les quatre. Alors, les quatre textes. On a là le corpus central, c'est la Constitution du 4 octobre 1958, et trois documents qui sont annexés, le préambule à la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004. Bon, ils sont annexés, ils ont valeur constitutionnelle. Bon, mais dans un texte constitutionnel, on peut avoir un article qui déroge à un autre. C'est possible, ça. Hein, la mesure où c'est clair, où on a une affirmation générale, générique, qui dit la souveraineté réside uniquement dans la nation, et puis la nation, ça. Et après, on a un autre article qui dit il y a une possibilité de dérogation sous réserve de réciprocité et pour le cas de maintien de la paix. Bon. Et donc, nous n'avons jusqu'à présent, dans nos. Après, on va peut-être trouver dans la Constitution de 58, dans le titre, quelque chose, mais je pense pas. A priori, cet article 15 n'est pas contredit par, par un autre article. On va jeter un petit coup d'œil sur le titre. Je ne trouve pas ce titre. Ah non, ouais, de l'Union européenne, c'est le titre 15. On ne parle pas de souveraineté. Hein. On dit qu'il y a des accords qui s'appliquent, mais on... souveraineté, c'est très fort. Hein. Bon, on regardera ça en détail. A priori, il ne semble pas que la souveraineté soit mise en cause par... Alors, on verra certainement, quand on décortiquera les articles du titre 15, qu'en fait, sans le dire, on déroge à la notion de souveraineté. Alors, ensuite, le 16 nous dit... La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité de droits et des devoirs sans distinction de race ni de religion. Bon, ça c'est pour dire que toutes les colonies, noires, gris, jaunes, ils sont tous les mêmes droits. Bon. Bon, donc il n'y a pas grand chose, parce que vous en pensez, pas grand chose à dire là-dessus.
Non, c'est marqué,
c'est le principe.
Oui, c'est
marqué.
C'est
faux. C'est pas tout à fait si c'est aussi.
Oui, mais c'est marqué.
Oui, c'est ça.
C'est marqué, disons, tout ce qui s'est fait, tout ce qui a pu se faire en matière de ségrégation, ça s'est fait de façon occulte, quoi.
Non, il n'y avait pas de la ségrégation, mais l'Algérien n'avait pas les mêmes droits.
Ah si.
Mais si, c'était à l'époque, comment ?
Si, si.
Il s'était administré par un préfet, par un...
Ah si, si.
C'était français. Il n'avait pas le droit de vote, était... Ah,
il n'avait pas le droit de vote.
Alors, est-ce qu'en 46, on n'a pas entendu, au départ, ils n'avaient pas le droit de vote, il me semble. Il y avait quelque chose que les Européens avaient, mais le peuple algérien n'avait pas.
Mais pas après 46.
Pas après 46,
voilà.
Mais avant
46. Oui, mais ça c'est 46. Ça.
C'est 46, oui.
Le préambule 46.
Oui, mais ils ont trois votes. Oui, oui.
Donc
maintenant, ils ont tous le droit. Sur papier, ils ont le droit de voter, ils votent. Non, mais l'Union d'Outre-mer, tout ce qui est d'Outre-mer.
Ah, bah, oui, ça a changé, mais après, c'est bon.
Je ne sais pas si le Vietnam, l'Indochine, parce que c'est le Vietnam, il faut dire que le Laos...
Bah, je pense qu'après 46, tout le monde avait le droit de vote pareil. Hein,
tout le monde avait le droit de vote, il faut dire que le Laos...
Justement, la constitution de 46 a apporté ça, hein. L'égalité des droits pour tous les peuples d'outre-mer. Que c'était le département. Alors, ensuite, l'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leur civilisation respective, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est une déclaration de bonnes intentions. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Pas grand-chose à dire là-dessus.
L'union, elle existe plus maintenant.
C'est quoi l'union? Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Hein.
Oui,
c'est obsolète.
Pourquoi pas la République française? Pourquoi l'union? C'est quoi
l'union? C'est... Alors, c'était la France plus les peuples d'outre-mer.
Ouais, c'est ça.
Puisque l'article 16 dit la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race et de religion. Donc ça veut dire que les ressortissants, enfin les Algériens ou les Vietnamiens avaient les mêmes droits à partir de 1945. Et que tout ça, ça faisait l'union entre la France, la métropole et les pays d'outre-mer. Donc cette union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être, assurer leur sécurité. Bon, ça c'est du blablabla, quoi. C'est rien de sympa, quoi. C'est... Ouais. Alors, le 18, fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire et garantit à tous l'accès égal aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu obsolète, mais c'était quand même intéressant de voir qu'en 1945, on mettait dans la Constitution qu'on avait l'intention de leur donner l'indépendance. Hein.
Hein? Ben si, par la force des choses, mais si, il a fallu des guerres.
C'était quand même en 1945 écrit dans la Constitution que la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge, qu'elle est allée asservir, hein? C'est une façon plus euphémique de le dire, à la liberté de s'administrer eux-mêmes.
Voilà. Oui.
Bon, ben, c'est la fameuse autodétermination du grand Charles.
Oui, c'est
ça.
Bon, alors voilà pour le préambule. C'est plein d'idéologies, hein. C'est bien. Alors, il y a des articles à la fin qui sont un peu obsolètes parce que ça a trait à l'Empire colonial. Bon, on va maintenant aborder la charte de l'environnement. Alors là, c'est pas de la... Charte d'environnement. Alors, la charte de l'environnement, elle est bâtie d'une façon un petit peu bizarre. Il y a d'abord des considérations. Il y a 7 considérations dont on ne sait pas trop ce qu'il faut en tirer d'un point de vue juridique. Ça commence « Le peuple français considérant que, premièrement, ceci, 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 cela, et ensuite proclame. » Alors les proclamations, il y a 10 articles, bon, ça, a priori, c'est des articles juridiques, mais ces articles sont mis sous l'ombre portée de 7 considérations, c'est-à-dire, le législateur, j'ai l'impression qu'il nous dit, voilà, alors je vous écris 10 articles, mais ces 10 articles, ils sont sous l'égide de 7 considérations, c'est pas des principes ou c'est pas des commandements, hein, façon les 10 commandements, c'est des considérations. Voilà. Et alors je me suis beaucoup penché là sur cette charte de l'environnement, j'avais fait une petite vidéo critique, et je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'est qu'une considération. Bon, en tout cas c'est le peuple français, c'est pas rien, hein. C'est le peuple français considérant. Alors, le français considère que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Alors, on va commenter ces 7 considérations tout en sachant que ce n'est pas des articles de loi, hein, ce n'est pas des articles constitutionnels, c'est des considérations et ça donne en quelque sorte la teneur des articles coercitifs qui sont rédigés ensuite. Ils sont rédigés en fonction d'un certain nombre de considérations. C'est-à-dire que si on avait... C'est l'esprit, oui. Enfin, c'est un peu... Si on prend les syllogismes, c'est un peu des prémices. Hein. Mm-hmm. Voilà. Je fais une comparaison avec un syllogisme. C'est-à-dire que si on modifiait des prémices, et on ne pourrait pas écrire les articles suivants si on considérait pas ça. Bon. On considère que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Alors, ça vous inspire quoi, ça?
Il y a des choses, j'en sais rien du tout. L'humanité, il y a peut-être un déséquilibre dans la nature.
Que les ressources,
ils ont développé, c'est contre le darwinisme.
Oui.
Alors, pour mémoire, c'est un dénommé Yves Coppens qui a écrit ses chartes d'environnement avec l'aide de Jacques Chirac. Bon, enfin, c'est signé Coppens, c'est Chirac. Enfin, c'est pour info. Hein.
Émergence de l'humanité.
Émergence de l'humanité, l'humanité c'est nous, c'est l'homme. Et les hommes n'ont pu émerger que parce qu'il y a des ressources et des équilibres naturels.
C'est ça.
Mmh. Ah, voilà, c'est conditionné. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de ressources et pas d'équilibre naturel, pas d'humanité. Oui, d'emblée, ça frappe fort. Hein. À mon avis, ils n'ont pas mesuré la
gravité.
Ils n'ont pas mesuré la gravité de ce qu'ils annonçaient là. Hein. Ça veut dire que si les ressources, plus on perd de ressources, plus on perd d'équilibre naturel, moins on émerge. Hein. On se met à démerger même. Hein. Bon, voilà. C'est intéressant, quand même.
Et ça continue, après.
Ça continue. C'est... Ensuite, l'avenir. Alors, vous allez voir, deuxième considération, elle est gratinée aussi. L'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel.
C'est quoi le milieu naturel? C'est le béton?
Alors. Bon, c'est pas que je veux faire de la publicité, mais j'ai fait une vidéo un petit peu, pas une gag, mais bon. Une vingtaine de minutes où je déblatère là-dessus. Voilà. Alors, oui, ça veut dire que si on dissocie, parce que ce qui est intéressant, c'est une affirmation, c'est de, si on met le contraire, tout d'un coup ça s'éclaire. C'est-à-dire que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Si j'inverse la phrase, ça devient tout d'un coup beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si je dissocie l'humanité de son milieu naturel, il n'y a pas d'avenir.
C'est clair.
Et il n'y a pas d'existence. Hein? L'avenir, l'existence de l'humanité, c'est indissociable du milieu naturel. Donc si je dissocie l'humanité de son milieu naturel, il n'y a pas d'avenir et il y a un problème d'existence.
Ouais.
Et le milieu naturel, bah, c'est pas le béton, les villes, les cages à lapins, bah, c'est le milieu naturel. Hein? C'est-à-dire que plus on dissocie le milieu naturel, plus on met en danger l'avenir de l'homme et son existence. Déjà, les deux considérations, ça fait mal. Hein? Bon. Ensuite. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Alors là, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que moi, ça m'inspire, attention. C'est parti comme une flèche. Hein. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Et les animaux? Non? Il n'y a que nous? C'est à nous? C'est une affirmation incroyable, ça. Alors, c'est très typique, hein, de la. De l'écologie façon espèce humaine,
ouais.
C'est-à-dire on étudie les lieux et conditions d'existence des êtres vivants, non des hommes, et les rapports qu'ils établissent avec leur environnement, les hommes. Bon. Donc, les animaux n'ont aucun droit sur l'environnement, qu'on se le dise, hein. C'est le peuple français qui le dit, hein. Les animaux n'ont aucun droit sur L'environnement, c'est le patrimoine des hommes. Ça, c'est quand même... Vous êtes gonflé, moi, après ça. Alors, je vais dire, on a trouvé le mauvais choix. Alors, quatrième considération. L'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution.
Ben oui, puisqu'on va
dans le monde. C'est vrai, ça.
Ça aurait pu ajouter négative.
L'action est plus forte qu'il y a 200 ans. Quoi.
C'est vrai.
Là, pour le moment, il n'y a pas notion de bien ou de mal. Ils disent qu'il y a une influence. Non, mais je veux dire, à la limite, la phrase elle-même.
Oui. On établit une consubstantialité, une interrelation, hein, de causalité, pour reprendre le truc de tout à l'heure, entre l'activité de l'homme et les conditions de sa vie, sa propre évolution, c'est lui-même qui évolue finalement. On avait l'évolution darwinienne, c'était la. Là, c'est une. En fait, on passe à le contre-pied de Darwin. Darwin dit que c'est le milieu naturel qui fait évoluer les espèces. Et là, le peuple français, façon Yves Coppin et Chirac, dit. L'homme exerce une influence croissante sur sa propre évolution. C'est lui, c'est son agir à lui, c'est l'agir humain qui fait évoluer. C'est vrai.
C'est vrai.
Donc on a quitté l'évolution darwinienne. Ah bon. L'évolution darwinienne, elle a eu lieu, puisqu'on a eu le paranthrope, enfin on a eu Néandertal, Cro-Magnon, Néandertal, enfin, paranthrope, pithécanthrope, Néandertal, Cro-Magnon, Homo sapiens, bon, tout ça, ça a évolué sans que les hominidés soient conscients, enfin, maîtrisaient leur évolution. C'est bien la nature qui les a fait évoluer, nature, enfin, leur vie dans la nature. Oui. Là maintenant, on nous dit que maintenant ça a changé. C'est notre action, c'est la façon dont on vit, la façon dont on
qui nous modifie,
dont c'est nos créations à nous. Entre parenthèses, c'est la civilisation industrielle, le mode de vie industriel, qui nous fait évoluer.
On dort moins, etc. Pareil qu'on dort moins.
Oui, et puis on agit qu'avec des outils maintenant.
Oui. Voilà.
Ensuite, cinquième considération. La diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles.
C'est-à-dire que oui, on est dans un environnement pollué et c'est ça, ça veut dire ça quoi en fait.
Diminution des ressources naturelles, c'est pas une.
Exploitation excessive.
Oui, c'est ça, donc.
Ça, c'est le début.
Donc on dit dans la Constitution qu'on exploite trop les ressources naturelles.
Ouais. L'épanouissement de la personne.
Ça, faut définir ça.
Et affecté par certains modes de consommation.
Alors, certains modes. Regardez, c'est trois éléments. Certains modes de consommation, certains modes de production et l'exploitation des ressources naturelles.
Bon, l'exploitation excessive.
Oui, certains modes de consommation, hein, on voit bien lesquels. Certains modes de production, on voit bien lesquels. Et l'exploitation excessive des ressources naturelles. C'est tout simplement une description de la société industrielle. Hein ?
On peut le
dire. Et bien ça, donc la société industrielle, définie par ses trois composantes, La société industrielle affecte, oui, c'est bien de lire à l'envers la phrase, affecte l'épanouissement des personnes et le progrès des sociétés humaines. Bon, c'est une condamnation sans équivoque de la société industrielle. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils avaient écrit. Hein. C'est une condamnation de la société industrielle. Certains modes de production, bon, c'est les productions, certains modes de consommation, c'est la consommation ostentatoire, etc., etc. L'exploitation excessive des ressources naturelles, ça c'est la civilisation industrielle, croissante. La civilisation industrielle croissante. La croissance qu'on nous vend tous les jours. Ouais. Eh bien, ça affecte l'épanouissement de la personne et le progrès de nos sociétés.
Oui, c'est progrès sans conscience, sans réflexion. Ouais.
C'est écrit là quand même.
Oui, c'est le manque de réflexion sur le progrès. C'est d'ailleurs la frénésie du progrès.
Oui, mais c'est écrit dans la Constitution. Et les discours qu'on a sont des discours inverses. C'est-à-dire, il y a des problèmes, on va faire de la croissance. Donc c'est contraire, ces discours sont contraires à ce qui est écrit dans la Constitution. Est-ce qu'il y a bien bon. Ensuite, sixième considération. La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation.
C'est quoi les intérêts fondamentaux de la nation ?
Alors, on ne nous dit pas ce que c'est que les intérêts fondamentaux de la nation, mais on nous dit que la préservation de l'environnement en est un. Parce que peut-être qu'en lisant la Constitution plus loin, on va nous dire, tiens, ça c'est un intérêt fondamental. En tout cas, là on nous dit la préservation. Enfin, bon, je ne crois pas me tromper en vous disant qu'il n'y a que celui-là qu'on va trouver. Hein. Bon. La préservation de l'environnement, c'est un intérêt fondamental. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre avant toute chose. C'est fondamental. Fondamental, c'est. Bon, soit c'est accessoire, soit c'est.
Essentiel, mais là c'est fondamental.
Là c'est fondamental.
C'est encore...
Donc ça veut dire qu'on peut, dire. Ça vaut préserver l'environnement. Oui, mais attendez, il y a mon chien qui. Non, c'est fondamental. Oui, mais il y a une usine. Non, c'est fondamental. C'est écrit. Ouais. Vous voyez qu'il faut lire la Constitution. Alors là, on est dans, on avait dit clarté, cohérence, précision. Là, en cohérence, on a zéro partout en cohérence. Hein. Cohérence externe. Hein. Là, les phrases se contredisent. Il n'y a pas tellement d'incohérence interne, elles ne se contredisent pas trop ces phrases-là. Par contre, cohérence externe avec le reste du corpus législatif, oui.
Mais il y a autre chose, la préservation de l'environnement, ça ne dépend pas uniquement du pays, ça dépend des autres aussi. Parce que la pollution, ça n'a pas de frontières.
Oui, mais on nous dit que la préservation de l'environnement doit être recherché. Si on a un pays extérieur qui attaque notre environnement, ben on doit faire quelque chose. Et que c'est fondamental. Ça passe avant tout le reste. Septième considération. Afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
Ah ben là...
Ils ont fait un groupe de travail pour faire ça.
Ouais, là on est mal.
Alors, est-ce que c'est clair, cette phrase?
C'est quoi, compromettre la capacité des générations futures? C'est quoi la capacité?
La préserver.
Déjà, la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui j'ai des besoins. Aujourd'hui, nous avons des besoins. Bon. Mais nous avons des enfants, nous aurons des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, qui auront aussi des besoins. Bon, jusqu'à présent, je pense que... Hein, c'est un peu difficilement affirmer le contraire. Les choix que nous avons à faire pour répondre à nos besoins, ne doivent pas compromettre la possibilité pour les enfants de satisfaire les leurs.
On voit les plans des forêts, ça c'est clair, faut pas tout couper, faut garder la forêt. Quoi.
Alors je dirais qu'une phrase comme ça, c'est l'archétype de la phrase claire mais pas précise. C'est clair. C'est clair. Mais alors c'est pas précis du tout. C'est clair, il faut pas que j'ai des besoins. Il faut pas que la satisfaction de mes besoins
mette en cause.
Bon, rendre impossible ou diminue la capacité de mes descendants à satisfaire. Alors c'est pas précis à plusieurs niveaux. C'est pas précis, c'est-à-dire qu'on ne dit pas de combien je dois réduire. On ne me dit pas ce qu'il faut.
On ne dit même pas qu'il faut réduire.
Oui, on ne dit même pas qu'on doit réduire. Hein.
Oui, enfin, alors.
On ne dit pas.
Choix, absolument. On ne dit pas quelle est la quantité. Alors, excuse-moi, tout à fait, il faut être précis. Hein? On ne dit pas la quantité à laquelle j'ai droit. Ouais. On ne dit pas la quantité de quoi. Et on ne dit pas, alors toujours ma petite marotte, on ne dit pas combien de temps ça dure, mes petits-enfants. Hein? C'est-à-dire, je dois laisser aux générations futures, d'accord, jusqu'à combien de générations? Là, c'est ça, c'est ma question, c'est ma marotte. Hein? Bon. Et combien les générations futures, ça va jusqu'où? Parce que si, non, mais si c'est, si ça va, si c'est 200 000 ans, que je reprenne ma réécriture, enfin, je refasse mes calculs. S'il faut que nos ressources finies durent 200 000 ans, alors c'est facile, contrairement à ce qu'il y a. Bon, on a les chiffres, on sait combien, on a le tableau, combien on consomme de pétrole, combien on consomme au niveau mondial, alors même au niveau français. Bon. Et donc. Je divise par 200 000 ans, et puis voilà, ça va me donner 2 grammes par an, possible, un truc dans le genre, quoi.
C'est pas tout à fait juste, parce que par exemple, le pétrole, on avait dit qu'on arrivait à un maximum, et puis on n'arrivait pas d'en trouver. Les Américains, on n'en a jamais apporté autant. Avec le pétrole de schiste.
Oui, non, mais on connaît. Non, mais oui. Non mais on connaît les réserves. On sait combien de temps ça va durer. Hein. C'est une question de j'ai tant de réserves, combien je tire par jour. Et combien de temps je veux que ça dure. Voilà. Et puis alors il y a aussi une chose qui manque, que ça m'est sorti de la tête là.
Leurs besoins, c'est pas ce que c'est.
Comment ?
Leurs propres besoins, c'est pas.
Les besoins des voisins ?
C'est quoi un besoin ? Il y en a qui ont plus de besoins que l'autre. Il leur faut plus de besoins que l'autre.
Ils auront peut-être plus de besoins que l'autre.
Est-ce que
c'est l'eau ? Est-ce que c'est l'air ? Est-ce que c'est.
Le besoin vital, c'est ce qu'on a besoin
pour.
Notre besoin vital est peut-être un peu trop élevé, si on gaspille moins.
Mais ça, c'est une charte de l'environnement pour les Français, ça.
Oui, c'est pour les Français, oui. Ah, mais voilà la précision que. Voilà la précision. On ne nous dit pas. Et combien vont consommer les autres? Parce que si on réduit notre consommation, si on a droit, quand même, si le Chinois, lui, ne se réduit pas. Alors, ça peut marcher si on parle que des ressources du pays.
Ça veut dire que les pays sont aussi.
Non, mais si on ne parle que des ressources du pays. C'est-à-dire qu'on à l'intérieur même du pays, par exemple le bois, faut pas que les générations futures manquent de bois. Mais après, pour des ressources qui ne sont pas de notre ressort, Alors, ça peut aussi s'évaluer en termes de terres arables, par exemple. Hein, puisqu'on a une artificialisation galopante par l'urbanisation. Bon, c'est une idée qui est claire, mais qui n'est absolument pas précisée, qui est très difficile de chiffrer.
Et qui n'est donc pas appliquée.
Ça donne une tendance qui n'est pas appliquée, parce que ce n'est pas un paramètre
facile à mesurer.
C'est pas un paramètre qui est indiqué dans les raisonnements.
L'intérêt, c'est de se préoccuper des générations futures là-dedans. Alors qu'avant, il n'en parle pas, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Oui,
c'est vrai.
Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà entendu...
Non, mais justement,
est-ce que c'est appliqué ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est-à-dire, alors, sans parler d'une application précise, puisque ça n'est pas précis, mais est-ce que cet argument est mis en avant pour dire on va prendre moins, on va garder ça pour après? C'est vraiment laissé en lettre morte. Bon, alors, à la suite de ces 7 considérations, on va avoir 10 proclamations. La première, cette fois, c'est des articles de loi qui sont coercitifs, qui peuvent s'appliquer, qui peuvent d'ailleurs faire l'objet, pourquoi pas, d'une mise en accusation. Chacun, article premier, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
C'est bien vérifié.
C'est idéologique, ça. Qu'est-ce que c'est un environnement équilibré? Il n'y a aucun équilibre dans la...
C'est un environnement où tu subis aucune agression.
Naturellement, l'environnement...
Ça peut être une agression physique...
Quand il fait 35 degrés, ça vient pas de l'homme, ça vient... Dans les conditions climatiques, je crois que l'intervention de l'homme, c'est 5% du climat. Le reste, ça vient d'où? C'est ça que je veux dire. On a l'impression qu'on est un peu Dieu le Père, on a tout fait. Vous avez un volcan, vous avez des tempêtes.
Non, mais
ça,
bien sûr, on ne sait pas par rapport à l'activité humaine, en fait. Hein. D'accord, c'est sûr que le.
Oui, mais.
Alors, qui est indépendant de nous.
Qu'on fasse pas cracher des usines. Oui, d'accord, ça.
C'est ça qui.
Alors, l'article 1 dit chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet article affirme un droit. Alors, on a déjà vu arriver, notamment dans le préambule, les notions de droit. Hein? On sait que la loi, c'est quelque chose, c'est une règle coercitive. La loi, elle interdit ou elle contraint. Et là, on n'est pas dans le domaine de la loi, on est dans le domaine de l'acquisition de capacités. Le législateur arrive à bien cerner par des déclinaisons de règles spécifiques les interdictions et les obligations, les contraintes et les empêchements, mais pour donner des droits, il y a toujours une très très grande difficulté juridique avec cette notion. Parce que si la notion de droit, c'était une notion comparable à la loi coercitive, ça voudrait dire que celui qui ne vit pas dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et qui le prouve, il attaque l'État. Et il exige il exige qu'on le mette dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc ça n'est pas le cas. Donc là, on touche à la notion, la source de l'éthique de la loi. Un droit n'est pas ce n'est pas une loi. C'est quelque chose qui était affirmé comme ça.
Si, il y a eu des personnes qui ont attaqué l'État français. J'ai eu ça il y a un an, il y a deux ans. Parce que l'augmentation de la température.
Oui, non, oui, oui.
La raide, la
politique. Oui, parce que là, on a fixé une norme. Hein. Bon, il y a une loi qui fixe une norme et qui est une contrainte. Nous ne devons pas dépasser plus de temps. Là, on a une loi qui est une contrainte, une interdiction. Bon, là, on...
Mais c'est quoi un environnement équilibré, déjà?
Oui, alors, oui, on va en parler. Mais ce qui est plus important, c'est l'histoire de droit. Hein. Bon, on est quand même dans la Constitution, on n'est pas dans une... C'est pas un arrêté municipal de... d'une petite bourgade avec un maire qui fait n'importe quoi parce qu'il ne connaît pas la loi. Bon. Et qui se retrouve ensuite devant le tribunal administratif.
Ouais.
Alors, la Constitution nous dit, chacun a le droit de vivre. Si ça ne veut rien dire de mettre le droit de vivre, il ne faut pas l'écrire. Bon, le droit, ça veut dire qu'on est en droit de. C'est un droit. C'est-à-dire que je peux. Un droit, c'est. Je peux aller à un guichet, le guichet de l'environnement équilibré et respectueux de la santé, et dire voilà, donnez-moi ça, j'ai droit. C'est écrit, c'est l'article premier de la Constitution.
Donc si je meurs, je peux attaquer l'État.
Oui.
Puisque j'ai le droit de vivre.
Oui, mais non, mais. Alors, j'ai. Hein? Ça, c'est un cas. C'est un cas qui. On va dire. Comment ouais. Bon, enfin, qui est improbable, puisque si tu meurs, tu ne pourras pas attaquer l'État. Mais j'ai le droit d'aller. Oui, oui. Non, mais c'est surtout le droit d'aller au guichet, demander qu'on me donne un environnement équilibré et respectueux. Voilà. Tiens, ce matin, qu'est-ce que tu fais? 8 heures, ben, je vais voir.
À tel endroit.
À tel endroit. Et donnez-moi. Regardez, c'est écrit, j'ai droit de vivre.
Ou alors tu as le droit de penser, de le dire, que grâce à un climat tel qu'on a là, tu peux mourir de ça, donc tu as le droit de réclamer préjudice.
Ouais.
Oui, c'est le fait.
Moi, alors.
Oui, en
deux ans. Ça, c'est un débat. C'est un débat.
Je pense que
c'est
bon.
Justement, en termes de droit constitutionnel, c'est-à-dire que le droit, ça n'a aucune valeur juridique. C'est un vrai problème. C'est différent de ce que tu dis. Hein. Bon, il y a une norme, on attaque l'État qui ne respecte pas ses engagements. Non, ça n'a aucune valeur de dire ça.
Bien l'environnement qui.
Non, mais il faut le dire, il faut le savoir. On fait une étude constitutionnelle, ça n'a aucune valeur constitutionnelle. Parce que la loi, c'est quelque chose qui est coercitif. Qui s'applique soit dans le cadre d'une interdiction ou d'une contrainte.
D'accord.
Le droit, c'est pas une loi.
Ouais.
Bon. Alors, après, un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est pas précis, c'est ni clair ni précis. Donc ça affirme quelque chose qui n'est pas juridique, et ensuite quelque chose qui est.
C'est
strictement rien. Rien. Mais pas le début de rien. Parce que on voit pas. D'abord, juridiquement, il n'y a pas d'action possible. On ne peut pas faire état de l'article 1er de la Charte de l'environnement de 2004. On ne peut pas faire état de cet article dans une quelconque action.
Ben alors.
Bon. Donc c'est un article qui n'a aucun sens.
Oui, donc ce qu'on disait, ce n'est pas par rapport à des normes hein, qui attaquent actuellement à l'État, hein, c'est Greenpeace et plusieurs fondations, pour une action face au changement climatique.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pas par rapport à des normes, c'est pas par rapport à des normes de la loi, c'est par rapport à ça justement.
Oui, mais attends, non. C'est à creuser, mais c'est par rapport.
C'est une obligation internationale européenne.
voilà. Oui, par rapport à ce qui a été décidé au sommet de Rio, à la COP, etc. Bon, c'est pas par rapport à cette constitution. C'est par rapport à des engagements internationaux qui ont été pris lors des différentes COP.
Hein?
Parce que une raison encore supplémentaire pour dire que, enfin, à mon avis, hein, ça ne cadre pas, le problème du réchauffement climatique, des dérèglement climatique, c'est quelque chose à venir. C'est quelque chose qu'on ne veut pas que ça arrive. Hein. C'est pas le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est quelque chose qui, enfin, me semble-t-il, quelque chose qui est immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas respectueux de la santé.
Il y a trop de pollution.
Bon, c'est vrai que ça va aussi dans le même sens. Ça va dans le même sens. Bon. Alors, article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, bon, c'est du même tonneau que l'article 2. Cette fois, on ne parle pas de droit, on parle de devoir. Alors, droit et devoir, on a vu, là aussi, c'est apparu.
Oui.
C'est apparu avec le préambule de la Constitution de 1946, où on a vu apparaître cette notion de droit et de devoir. C'était à propos de
l'emploi.
De l'emploi.
Devoir de travailler.
Devoir de travailler, droit d'avoir un emploi. On y a passé énormément de temps. Et on est bien incapable de dire le devoir de travailler, qu'est-ce que ça veut dire, et le droit d'avoir un emploi, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, on recommence dans ces notions fumeuses. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Ça veut dire que celui qui ne le fait pas, il peut être sanctionné. Ça n'a pas de sens. Si vraiment on a affaire. Alors là, par contre, dans la notion de devoir, on est proche de la législation coercitive. Devoir, ça veut dire qu'on est obligé de faire. Mm. C'est une obligation de faire. Bon, le droit, c'est on doit me donner. On a vu très très difficile à légiférer ça. Par contre, le devoir, il est facile à légiférer. Le devoir, c'est une contrainte. Devoir, vous devez payer vos impôts, vous devez aller à l'armée quand on vous appelle. Bon, il n'y a pas à discuter, c'est une obligation. Et là, vous devez prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, on imagine qu'il y ait un service civique qui soit instauré, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit, une journée par an, aller... préserver l'environnement. Voilà. Là, on serait dans la...
Tu vides les poubelles en rentrant, hein.
On serait dans la conformité, disons, d'une application mécanique de cet article 3.
Oui. Là, c'est la même chose industrielle, ça.
Chacun a des devoirs.
Attends, oui.
Ça serait bien pour les industriels, cet article-là.
Oui, également pour les industriels.
Pour les particuliers, pour la consommation de l'eau, c'est pareil.
Personne a le devoir de prendre part.
Alors,
un industriel aussi, il a le devoir de prendre part.
Tout le monde. Ça voudrait dire, là, c'est quelque chose de, comment dire, de volontariste. Hein, c'est-à-dire que c'est pas quand vous avez votre usine, il faut pas polluer. C'est-à-dire que chacun doit consacrer du temps. Comme prendre part à la défense de la nation ou prendre part au financement des services publics, hein, c'est une obligation qui ressemble à l'obligation de l'impôt ou à l'obligation de la conscription. L'obligation de prendre part, donc on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un service civil environnemental qui vous oblige, chaque individu, une fois par an.
Une police de la voirie, en fait.
Comment ?
Il faudrait créer une police de la voirie.
Ouais. En tout cas, c'est un article qui n'est absolument pas suivi de conséquences dans les faits, mais sur lequel celui qui voudrait créer un service civil obligatoire d'aller, je sais pas, débroussailler ou enfin, bon, faire une action favorable à l'environnement, trouverait une justification constitutionnelle pour le faire. Alors, article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences. Alors là, c'est l'industriel qui est visé. Celui qui est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Alors, c'est en premier lieu celui qui travaille, qui agit sur l'environnement. Soit qui a une action industrielle dans l'environnement ou qui agit sur l'environnement. C'est probablement un article générique constitutionnel qui fonde toute une déclinaison de législation normative de règles écologiques qu'on va retrouver dans les codes juridiques.
Ça,
ça comprend bien,
ça.
Ça comprend bien, hein ? Cet article, il est clair, précis et cohérent. Clair, précis et cohérent.
Mais la loi le définit bien, oui.
Ah, moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple, un chantier dans une rivière, et on devait protéger, empêcher le ciment de partir dans l'eau pour éviter que les truites meurent.
Ouais.
Ça, c'est bien précisé. C'est une bonne contrainte pour le chantier, d'ailleurs.
Oui, mais Jacques, tu dis, est-ce que dans la possibilité, c'est dans les conditions définies par la loi.
D'accord.
Alors, dans la mesure où la loi dit quelque chose, tu dois le faire.
D'accord.
Oui. Et il y a des réalités d'ailleurs, parce que moi je connais un chantier où il n'y a plus une partie de la rivière qui a évolué.
Bon, donc ça.
Donc ça marche.
Ouais.
L'article 4, ça paraphrase. L'article 4, ça paraphrase un petit peu le truc. Hein. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. C'est.
Pollueur-payeur, c'est ça ?
Oui,
mais dans les conditions définies par la loi. Bon, c'est redondant tout ça, parce que toute personne doit, ça veut dire toute personne doit appliquer la loi, hein, doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Tu vois cette histoire de virgule. Alors, on a une constitution qui nous dit.
Faut appliquer la loi.
Alors faire certaines choses, moi, je ne vous dis pas lesquelles, vous n'avez qu'à regarder la loi. C'est pas la peine de le mettre. Hein. Ça, on l'a déjà vu pour la nuisance. Hein. Non, on n'a pas. Oui, on l'a déjà vu. Donc, même système, toujours la virgule, dans les conditions définies par la loi. Article 5. Alors là, l'article 5, ça, c'est une erreur.
C'est quoi ?
Oh là là. Lorsque la réalisation d'un dommage. C'est l'article 5, ça fonde tout ce qu'on appelle le principe de précaution. Lorsque la réalisation d'un dommage. Bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Bon. Cet article 5 est extrêmement important, il est abscon. Mais extrêmement important dans la mesure où c'est lui qui fonde tout ce qu'on va vous dire sur le principe de précaution. On entend souvent en vertu du principe de précaution, on fait ça. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a le principe de précaution dans la Constitution. Il est là. C'est article 5. Hein ? Ah, bon. Et cet article 5, il est à double entrée, triple entrée, double tiroir. Il commence déjà lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques.
Comment on sait que c'est un dommage ?
Voilà, la réalisation d'un dommage. Bon, c'est mal dit déjà, hein, parce que Non,
il n'y a pas de un dommage sans observation au niveau de la réalisation. Il connaissait aussi un dommage que l'on n'avait pas réalisé.
Bon.
Oui, c'est bien certain.
Donc, il y a. Alors, donc, il y a quelque chose de pas bien qui risque d'arriver, mais on n'en est pas sûr. Scientifiquement, on n'en est pas sûr.
Oui, mais en plus, il faut être scientifique pour comprendre le dommage qu'on peut faire.
Alors. C'est-à-dire que si on n'a pas de connaissances scientifiques, il n'y a pas de connaissances scientifiques suffisantes pour être certain qu'il va se passer quelque chose. Alors, ça veut dire déjà qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui substitue les scientifiques.
Pas suffisamment. Par exemple, les OGM.
On n'est pas certain que ça provoque des maladies, mais on a des doutes.
On n'est pas certain.
Bon. Alors,
pour y affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques, donc l'État, donc peuvent légiférer. Bon, faut d'abord évaluer les risques. Alors, bon, c'est un petit peu contradictoire parce que si les scientifiques ne savent pas, ce n'est pas les bureaucrates qui vont pouvoir évaluer les risques.
À la limite, ça va être tout le processus industriel. Si on va
Ça arrête tout. Ouais. Ça arrête tout. Bon, mais. Non, mais. Là, on voit que la bureaucratie reprend le dessus parce que. On nous dit il y a un risque. De quelle nature est ce risque ? Ben, le risque est incertain, les scientifiques ne peuvent pas nous dire que le risque est certain. Donc il y a un doute et il y a le principe de précaution. Bon, donc à la base, c'est le scientifique qui dit que c'est incertain. Hein ? On se repose sur lui. Et bien là, à ce moment-là, c'est le bureaucrate, le technocrate qui n'est absolument pas scientifique, qui a fait l'ENA ou autre, qui évalue le risque.
Et oui, mais c'est scientifique, normalement, c'est lui qui prédomine sur.
Ben, oui, mais alors, voilà. Le problème est là, dans cet article 5.
C'est ça, tu vas s'expliquer.
Oui, c'est.
Ça
bloque tout.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui est obligé de prendre une décision, sachant qu'il ne connaît pas la teneur du danger. Ouais. Ah oui,
parce qu'il n'est
pas scientifique.
Oui, mais on se base sur les scientifiques pour dire que le risque n'est pas certain. Hein? Par exemple, vous avez bon, le citoyen ordinaire, comme vous et moi, va dire, oh là là, cette usine, c'est terrible, ça va exploser. Bon, moi j'habitais à Toulouse quand AZF a explosé. J'étais dans le bureau, ça fait comme ça. Bon, et j'étais à 2 km d'AZF.
Ah, quand même.
Ouais. Bon. Eh bien, alors avant, on aurait dit par exemple, oh là, ça va exploser. Ouais. Et puis, le scientifique arrive et il nous dit, je suis pas certain. Bon, voilà. Donc là, on est bien dans ce cas. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde l'article 5. Eh bien, c'est des bureaucrates qui vont évaluer les risques. Alors, les scientifiques, bon, on aurait pu dire, en fonction du risque évalué par les scientifiques, non, c'est les autorités publiques qui mettent des procédures d'évaluation, bon, bref, et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, donc afin de faire que le dommage ne se produise pas. Si on élargit ce principe de précaution, alors d'abord on élargit, enfin, bon, quelle est la limite, quelle est la frontière? Parce que comme tu dis, toute usine
présente un risque.
Présente un risque.
Bien sûr.
Alors où est la limite?
La limite, en fait, c'est les autorités publiques qui la donnent.
Ouais.
Oui.
Donc c'est arbitraire.
Voilà. Les centrales nucléaires,
tout le monde
en
entend, ils n'ont plus du tout.
Enfin,
par exemple. Les centrales nucléaires, c'est n'importe quelle industrie chimique. Par exemple.
Bon. Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elle concilie la protection et la mise en œuvre de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Voilà. Voilà donc dressée la ligne d'horizon pour les politiques publiques qui sont sous la législation de cette constitution. Elle doit promouvoir un développement durable. Alors, on ne définit pas le développement durable.
Mais on parle de développement, il y en a déjà tout à l'heure, c'est le développement.
Développement durable.
Si le Marx et eux, ils ont trouvé ce que c'était le développement durable.
C'est que
bah, ils ont trouvé, ils savent ce que c'est, quoi, s'ils l'ont marqué.
Oui. Oui.
C'est pas sûr.
Ça fait partie, ben, on a déjà vu, on n'a pas défini la démocratie, on n'a pas défini la liberté, on n'a pas défini la laïcité, on n'a pas défini... ce que c'est que
le service public,
etc. Donc, développement durable, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Après, il y a une phrase, mais elle ne définit pas le développement durable. Elle dit que le développement durable s'ajoute. Il y a trois piliers, c'est la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Donc, il faut que ce développement durable doit concilier la mise en valeur de l'environnement, donc c'est plus que la préservation, c'est la mise en valeur. Il doit y avoir un développement économique. Alors, développement économique, on a vu, c'est le PIB. Hein. Le développement économique, c'est l'augmentation de la production. Quantitativement, c'est plus de biens.
Oui, mais ça va à l'encontre de la valeur de l'environnement.
Et le progrès social. Donc vous voyez, c'est la quadrature, oui, c'est la quadrature du cercle. Il faut qu'il y ait un développement durable. C'est-à-dire, il faut que ça dure. Et ce qui dure, c'est que ça ne s'arrête jamais.
Mais il faut qu'on puisse développer.
Voilà. Il faut mettre en valeur l'environnement. C'est pas le préserver, c'est le mettre en valeur. Hein. C'est plus que ça. Il faut développer développement économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une croissance. Voilà, c'est croissance. Il faut qu'il y ait une croissance. Oui. Hein? Donc, développement durable, c'est bien croissance durable. Croissance durable et progrès social, c'est-à-dire amélioration des salaires, augmentation des salaires, des garanties sociales. Bon. Il faut faire tout ça.
Oui, alors dans une entreprise, on a le droit de porter plainte.
Voilà, alors si il n'y a pas de progrès social.
T'as le droit de porter
plainte. On peut porter plainte.
Mais c'est dans le cas où il n'y a pas de progrès social.
Alors, là, moi je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de progrès social. Déjà, première raison, l'écart des revenus augmente. Je m'en fous du niveau de vie qui a augmenté, c'est-à-dire la moyenne des revenus par rapport à l'ancien régime, etc., ou même par rapport il y a 50 ans au monde. Oui, d'accord. Mais le progrès social, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale. Hein? Parce que la théorie du ruissellement, vous savez ce que c'est que la théorie du ruissellement ? On n'explique pas.
C'est le pognon de dingue, là.
Hein ?
C'est le pognon de dingue.
Non, c'est les riches.
C'est les riches, en fait.
Enrichissent ces pauvres. Plus il y a de riches. Écoutez, vous inquiétez pas. Vous inquiétez parce qu'il y a des riches. Non, vous inquiétez pas. Et la théorie du ruissellement, c'est tout l'argent qu'ils gagnent, ça va vous ruisseler dessus, ça va vous tomber dessus, vous allez en gagner. Voilà. Bon. Alors, cette théorie du ruissellement, ça ne marche pas parce qu'il y a un rapport de l'OCDE de 2015 qui dit que les inégalités sociales sont plus fortes maintenant. Égalité sociale, c'est l'écart entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins. C'est le fossé.
C'est le sens de
le
monde.
Le fossé a augmenté et les champions dans le top 50, dans le top 5, c'est la France.
Est-ce qu'on montre l'exemple ?
L'écart des revenus. L'écart des revenus est 10 fois plus grand maintenant qu'au Moyen-Âge. L'écart des revenus. Entre le paysan de base et le seigneur, hein, il y avait beaucoup moins d'écart qu'entre
Carlos Ghosn, oh, pardon.
Entre le Smigar et puis
Carlos Ghosn.
Donc ça veut dire, et si je t'écoute, ça veut dire qu'il y aura peut-être un nouveau 1789.
Oui, mais on prépare ici. Mais bon, faut 2 ans de préparation. Ah. Pour l'instant, on est à 6 mois. Ouais. Alors, donc, s'il n'y a pas de progrès social,
on peut attaquer.
Hein. Bon, alors, s'il n'y a pas de développement économique, vous savez, ils vont vous dire que ça se développe, et puis tout ça, le développement économique, on s'en fiche un peu. La mise en valeur de l'environnement.
C'est quoi ça?
C'est assez difficile à dire, mise en valeur. Regardez, on a fait des jardins, là.
Bon, le verdissement des villes.
Oui, et puis on... L'environnement, quand il n'est pas détruit, quand on ne met pas de béton dessus, il est bien entretenu. Ouais,
oui, mise en valeur, mais il parle aussi de protection de l'environnement. La protection et la mise en valeur de l'environnement.
Oui.
La protection est assurée.
Non, protection est assurée. Voilà. Oui. Bon. Mais le plus criant, c'est le progrès social.
Il n'y a pas du blabla.
Alors, c'est vrai que pour pouvoir attaquer ce problème social, il faut avoir une définition du problème social, au moins des critères. Bon, il y a un critère, il y en a plusieurs, le critère de l'écart des revenus. Il est très simple, très clair, très précis, et on est chiffre. Bon, et là, on montre, qu'il est énorme, qu'en France, et c'est un des pays où il est le plus grand, qu'il ne fait que s'accroître et qu'il est plus grand qu'avant la civilisation industrielle.
Ouais. C'est beaucoup. Il y a un monsieur qui disait en 2008, les salaires n'ont jamais été aussi bas depuis 50 ans et les profits aussi élevés. Qui a pu dire ça? On pourrait penser que c'est un militant syndical. Eh bien non, c'est le directeur de la Banque de régulation américaine. 2008. Qui disait donc que les profits n'avaient jamais été aussi élevés depuis 50 ans et les salaires aussi bas. C'est vrai quand même. Un patron d'une banque internationale, c'est fou.
Voilà, on apprend des choses. Hein. Alors, article 7. Toute personne a le droit. Ça recommence, on a le droit.
Ouais, c'est bon.
Dans les conditions et limites définies par la loi. Oui, alors là du coup. Bon, autant en haut, on a le droit de vivre. Et là, on n'est pas limité par la loi. Hein. Dans un environnement, donnez-moi pour demain matin, je veux un environnement équilibré et respectueux de la santé. Bon, par contre, l'article 7, il va vous dire, mais attendez, vous avez le droit, mais c'est dans les conditions et limites définies par la loi. Donc, faut aller voir la loi. D'accéder aux informations relatives à l'environnement détenu par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Il n'y a pas que l'environnement, les informations sur l'environnement qu'on n'a pas. Entre les autorités publiques. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas.
Alors, ça veut dire, regardez, savez, on parlait tout à l'heure des conseils de quartier, on parlait aussi de l'assemblée locale citoyenne qu'on est en train de monter à couche. En tout cas, on peut interpeller sans problème les pouvoirs publics sur tout ce qui a une incidence sur l'environnement.
Oui. Mais tu n'as pas répondu.
Ah non, mais là tu viens avec.
Tu n'as pas posé des questions. Alors,
tu viens avec la charte de l'environnement, article 7. Alors, le gars, il faut que tu te dises oui, mais attendez.
Dans le respect des lois.
Il y a une limite, vous n'avez pas le droit de me demander ça. Il faudrait qu'il la trouve, la loi. Ouais.
Dans les conditions, une limite.
Oui. Oui, s'il y en a. Alors, il faut. Voilà.
Une limite pour l'information.
Si. Alors, limite, ça vaut effectivement pour l'information, vous avez le droit de vous informer jusqu'à une certaine limite, et puis vous avez le droit d'interpeller, enfin, de participer aux décisions publiques, ça veut dire interpeller, qu'est-ce que vous faites là-bas, vous bâtissez un truc, attendez, j'arrive avec mon comité de quartier, et ma charte dans l'environnement, mon article, je veux participer. Il faut qu'il dise, attends, oui, d'accord, mais il y a la loi qui limite, qui dit que là, tu n'as pas le droit. Bon, En fait, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose qui limite. C'est au cas où ils seraient trop emmerdés par des comités citoyens, hein, on ferait une loi où on dirait le comité citoyen, il a le droit de venir nous voir une fois ou deux, pour ça et pour ça, pour les papiers gras, mais pas pour... Mais pas pour la cible chlorhydrique dans le...
Il y a combien de lois dans les conditions limites définies par la loi? Parce que là, il faut aller dans...
Il suffit qu'il y ait une loi quelque part. Il y a...
Il y en a 74.
Ah ben, il la trouve, hein. Il la trouve. Non, c'est plutôt que... S'ils sont trop entravés dans leur liberté d'action, ça, c'est dans le domaine des commandements opérationnels, exécutifs, aménagements du territoire au sens large... S'ils s'aperçoivent qu'ils sont trop emmerdés par des assemblées, des comités citoyens, comités de quartier ou autres, bon, ils vont pondre une loi en disant le citoyen ne peut pas participer à l'élaboration de projets en deçà de 1 milliard d'euros. Voilà. Si vous t'écarter, quoi. Ouais. Enfin bon, mais je pense qu'actuellement, vu la pauvreté, enfin les gilets jaunes de l'action citoyenne, de la revendication citoyenne dans ce domaine-là, c'est-à-dire nous voulons participer à. Jusqu'à présent, on est resté très attentiste, c'est-à-dire qu'on. On attend que cette démocratie participative, collaborative, délibérative vienne de dire « Ah, il y a une enquête publique, alors il vient y avoir deux ou trois réunions, et vous pouvez venir, et pas n'importe qui, hein, les représentants d'associations, mais c'est pas ouvert à tout le monde. » Voilà, jusqu'à présent, le citoyen s'est contenté de ça. Bon. Or, il faut savoir, bon, ben voilà, on vient de découvrir qu'il y a un article dans la Constitution qui permet à n'importe quel citoyen ou groupe de citoyens, aussi petit soit-il, de demander à participer à l'élaboration d'une décision publique qui est en train de se faire, qui est en gestation, et qui est de nature à impacter l'environnement de telle ou telle façon. C'est bien de savoir. Je pense que c'est personne ne sait. D'où l'intérêt de prendre son temps. Alors, article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Alors là. Non, ouais, il faut être gonflé pour dire ça, hein, quand même. L'éducation et la formation de l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis.
Ça veut dire qu'il faut enseigner à l'école.
Oui. Avant de contribuer à l'exercice, il faut éduquer et former.
C'est une déclaration finalement d'institutionnalisation d'une éducation, d'une formation de l'environnement. Où ? Est-ce qu'à l'école primaire, il y a une éducation et formation à l'environnement.
Donc il faut le réclamer pour l'école.
Voilà, peu réclamé. Il faut commencer jeune, hein, parce que c'est tout petit qu'on prend les mauvaises habitudes. Donc on peut réclamer. Une formation à l'environnement dès le plus jeune âge. Dans le cadre de l'éducation nationale. Bon. Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Oh, mais ça, c'est leur cuisine à terme. Hein. Alors, bon, c'est une injonction. Pour la recherche, c'est quelque chose de très important au niveau budgétaire. Hein. C'est 18 milliards. Hein. recherche. C'est important. C'est, on cherche tout en France, hein, tout. Tout ce qui peut être cherché est cherché. Hein. Là, vous avez des sociologues à pointer qui étudient pendant 2 ans le mouvement des paupières sur les gens qui regardent un écran d'ordinateur. Hein. Vous avez des gens qui cherchent ce que ça donne l'implantation d'un neurodisque sur le cerveau d'un chimpanzé. Vous avez, tiens, moi j'ai quelqu'un de ma famille, sociologue à Paris. Et ben ça fait 2 ans qu'il est sur une mission. Il étudie le comportement des ados 14-16 ans d'écoute musicale sur baladeur.
Il y a beaucoup de chercheurs.
Mais... Jussieu, il est chercheur Jussieu. Il cherche ça depuis 2 ans. Non, c'est 10, fait 18 milliards, tout ça. Tout ce qu'il peut chercher, chercher. Alors, ça paraît comme ça, bon, mais derrière, il y a des lobbies scientifiques extrêmement forts. Des sociétés de sondage, machin, tout ça. Tout le monde s'engraisse avec la recherche. Il devrait y avoir des arbitrages citoyens qui disent, attendez, on a besoin de chercher ça, et pour ça, ça, c'est. Et puis d'abord, on cherche dans les directions. Hein, qu'on ne veut pas de croissance, etc.
Il n'y a, bon, pas, trouver,
il y a pas d'arbitrage citoyen. La recherche, ça aussi, ça fait partie d'un truc. Bon, si on vous pose la question, vous ne savez pas quel est le budget, vous ne savez pas ce qu'on cherche. Vous lisez la mission. Alors, c'est accessible sur Internet. Hein, gouvernement.gouv, etc. Vous cherchez à la loi de finances 2018. Les missions et tous les détails, vous avez tous les détails. La mission recherche, c'est 3 pages. Et c'est un puits, c'est totalement exhaustif. Il y a tout, tout dedans. Alors que la recherche, me semble-t-il, bon là on fait un petit aparté, c'est vraiment effectivement stratégique. Et... personnellement, je pense que la recherche tous azimuts, c'est pas souhaitable. Il faut qu'il y ait une recherche qui soit ciblée sur les choses importantes qu'on a à faire. Surtout dans la mesure où ça engage des sommes aussi importantes. Alors, donc, là, la recherche doit apporter leur concours à la préservation des valeurs de l'environnement. Alors, qui est effectivement... Alors, j'ai pas en tête le montant de la mission recherche environnementale, mais celui-là, il est justifié, semble-t-il. Hein? En tout cas, il y a une injonction constitutionnelle très claire pour qu'il y ait un budget recherche dans le domaine de la préservation de l'environnement qui soit substantiel. Article 10. La présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. Voilà. C'est-à-dire qu'on va porter la bonne parole à l'extérieur. En disant, nous avons une charte de l'environnement. Bon, enfin, c'est mieux que rien. Voilà. Alors, avec la charte de l'environnement, avec la préambule de la Constitution de 1946 et avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a vu les 3 textes qui sont les textes que je qualifierais d'idéologiques. Ce qui fait que très souvent ils sont pas précis, ils sont pas clairs, parce qu'ils indiquent des directions. Et comme le législateur n'a pas voulu trop se lier les mains, bah il a donné des interprétations qui pouvaient être... Enfin, il a rédigé les phrases de telle façon que les interprétations puissent être dans tous les, dans plusieurs directions. Donc on va attaquer la Constitution proprement dite, qui va être beaucoup plus précise.
Ah, quand même.
Oui. Ah oui, elle a intérêt de préciser cela. Alors, c'est la Constitution du 4 octobre 1958. qui a été écrite en une toute petite semaine, 4-5 jours, par Michel Debré et Charles Debré. Alors, on se demande souvent. Il y a un petit bouquin qui est assez intéressant, je vous l'amènerai la prochaine fois. C'est un petit opuscule qui récapitule toutes les constitutions françaises depuis la première constitution de l'an 1. Il y a eu 18 constitutions en France depuis 1789. Mais il y en a certaines qui ont vécu que quelques mois. Voilà. Bon. Donc celle du 4 octobre 1958, un petit rappel historique. Donc après la guerre de 39-45 et l'armistice donc du 8 mai 45, on a eu la 4e République, puisque la 3e République, qui a été la République la plus longue de l'histoire de France, 3e République, elle va depuis la fin de la guerre de 70, 1971, à 1939. Tout ça, c'est la 3e République. Après 1945, on a la 4e République, donc constitution de 1946, dont on a gardé le préambule pour la constitution de 58. Oui. Bon. Donc, entre 1945 et 1958, c'est-à-dire 13 ans, on a la 4e République, qui était un régime d'assemblée, c'est-à-dire que l'assemblée avait une
plus de pouvoir
par rapport pratiquement que l'exécutif. En tout cas, c'est elle qui faisait le gouvernement. Le gouvernement était issu de la majorité parlementaire. Majorité parlementaire, étant donné qu'il y avait un suffrage, un mode électoral qui était très très fortement imprégné de proportionnel. On avait une multitude de partis qui étaient présents dans l'hémicycle, et les majorités de gouvernement, c'est-à-dire des coalitions d'un certain nombre de partis pour obtenir la majorité des parlementaires, n'étaient pas toujours faciles à obtenir, ce qui fait qu'il y avait une instabilité ministérielle dans la mesure où le gouvernement procédait de l'Assemblée. Et ça a donné une instabilité ça c'est discutable, le fait de dire c'était pas bien, le fait qu'on change sans arrêt le gouvernement, il fallait une stabilité. Bon, toujours est-il que ça s'est passé comme ça, et qu'on est allé chercher la seule personne qui pouvait mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire Charles de Gaulle, qui avait occupé le poste éphémère de Premier ministre pendant à peine quelques mois, de suite après la libération, et qui s'était ensuite retiré parce qu'il y avait trop de communistes autour de lui, ça ne lui plaisait pas. Il était donc rentré à Colombey. Et c'est un socialiste, c'est Guy Mollet qui est allé chercher à Colombey. Et donc là, on a eu une espèce de putsch, un putsch larvé. À savoir qu'il est arrivé, puis il a dit je vais réécrire la Constitution. Bon, alors aujourd'hui, tous les groupes qui réfléchissent sur la genèse de la Constitution se posent la question: comment est-ce qu'on écrit une Constitution et qui doit l'écrire? Bon, c'est une question, il n'y a pas de réponse. Bon, en tout cas, De Gaulle, lui, il a trouvé une réponse, il dit moi, c'est moi qui vais l'écrire. Bon, donc il a écrit la Constitution, mais il l'a quand même soumise à la ratification du suffrage universel. Alors, on a une affiche qui est extrêmement moi je la trouve très 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 drôle finalement, c'est oui à la Constitution de 58 avec Marianne qui fait ça, et puis derrière De Gaulle qui fait ça en nombre porté. Donc, voter pour la Constitution de 58, c'était voter pour De Gaulle. Et personne n'a lu la Constitution. Les gens ont voté au suffrage universel pour approuver la Constitution. Ils ont voté, en fait, pour De Gaulle. Bon. Ben, c'était la technique du plébiscite napoléonien. Hein. Voilà, donc ça a donné la Constitution de 58, qui a annexé, qui a dit oh ben on garde la DDHC et puis on garde le préambule de la Constitution. Alors ça c'est Guy Mollet qui est allé chercher de la CPO, qui est allé chercher de Gaulle. Bon, il y avait quand même une très très forte, il y a le Parti communiste qui était encore extrêmement important, il faisait pas loin de 20-25% des voix, quand même. Bon, plus les socialistes. De Gaulle a eu l'intelligence politique de dire bon, écoutez, je vais vous garder votre préambule communiste. De toute façon, c'est que de l'idéologie, c'est des grandes idées, il n'y a rien de précis. On peut faire dire tout et ce qu'on veut. Voilà. Bon, donc, ça, moi, je n'ai pas beaucoup de pain de le garder.
Il faut dire aussi qu'il y avait le fonds qui avait ce fonds de guerre d'Algérie aussi.
Ah oui, alors là c'est si on veut rentrer dans les détails des circonstances qui ont favorisé, bien sûr, on est allé chercher De Gaulle parce que il y avait une instabilité la 4e République, mais surtout parce que la 4e République était incapable de résoudre la crise algérienne. Se retrouvait complètement démuni, Mitterrand en tête, et il y avait que De Gaulle, qui pouvait négocier avec l'armée.
Oui, c'est ça.
En Algérie. Bien sûr. L'armée était divisée. L'armée était divisée parce que il y avait ceux qui voulaient garder
un carteron.
Salan, Chal, Zeller, Jouot. Bon, un carteron de Généraux en retraite. Alors, c'est vrai que De Gaulle est arrivé au pouvoir avec l'assentiment de toute l'armée française et toutes les factions de l'armée qui étaient en Algérie, en disant je vais garder l'Algérie française. Et d'ailleurs, il est allé à Alger et il a dit une fois vive l'Algérie française. Il l'a dit une fois. Il ne l'a plus jamais redit. Et donc, ça a permis de calmer l'aile droite de l'armée française d'occupation, on va dire, en Algérie. Lorsque cette droite s'est rendu compte que De Gaulle en fait jouait le jeu politique et qu'il jouait le jeu de la majorité des Français qui voulaient qu'il y ait une indépendance, l'aile droite de l'armée d'occupation en Algérie s'est radicalisée, il y a eu ce putsch. Bon, le putsch, malheureusement pour eux, a avorté parce qu'ils étaient qu'une minorité. Puis, Massu a senti de quel côté fallait plutôt pencher, et puis voilà. Et il n'y a eu qu'une fois, vive l'Algérie française, mais il y a eu vive l'Algérie française. Il l'a dit. Hein.
Oui, on voit ça, sans souvenir.
Et ça a donné ça. Voilà. Alors, on va. Voilà, on a presque terminé. On a 5 minutes pour lire le préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis dans la déclaration de 1789. Complété par le préambule de la Constitution de 46, ainsi qu'au droit de voir défini dans la Charte de l'environnement de 2004. Voilà, donc c'est, on dit bien d'emblée que la Constitution, c'est ça, plus les trois. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre au territoire d'outre-mer qui manifeste sa volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité et conçues en vue de l'évolution démocratique. Alors ça, ça a été ajouté vraiment pour parce qu'on était dans ces circonstances de 1958 avec un problème d'Algérie à régler. On va faire simplement l'article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, laïque, on ne sait pas ce que c'est. Bon, il y a eu quand même la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905 hein, qui permet de donner une espèce de définition de la laïcité. Malheureusement, cette loi, enfin malheureusement, enfin, il se trouve que cette loi, elle a été amendée à plusieurs reprises, et qu'elle n'est pas vraiment respectée, etc., etc. Donc, au bout du compte, on ne sait pas ce que c'est que la laïcité, parce que quand on lit la loi de 1905 et qu'on regarde ce qui se passe, on ne comprend plus. Mais bref, le problème vient surtout des deux autres mots, démocratique et sociale. Alors la France est une république démocratique, on ne définit pas du tout ce que c'est que la démocratie. Et sociale, une république sociale, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que... Donc là, il y a un vrai problème. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Bon, donc on affirme l'égalité, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Ce n'est pas l'égalité des revenus, ou l'égalité des chances dans la vie, ou l'égalité des capacités pour obtenir un revenu d'existence. Hein. C'est l'égalité devant la loi. C'est tout. Bon, en fait, ça affirme le rejet de l'esclavage, c'est-à-dire il n'y a que l'esclavage. C'est tout. L'égalité, ça ne va pas plus loin que ça. L'égalité devant la loi. Alors, liberté, égalité, fraternité, vous voyez ce que c'est que l'égalité. Hein. C'est très restrictif. Sans distinction d'origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, bon, ça ne veut strictement rien dire.
À l'époque.
Non, mais ça ne veut rien dire. La France est une république, son organisation est décentralisée. Alors, pour la petite histoire, hein. Bon, il a mis ça parce que Gaston lui a dit tu vas me mettre ça, et puis tu mettras. Mise de l'intérieur, parce que mon dada c'est la décentralisation. Voilà. Et comme De Gaulle lui était un jacobin, mais qu'il était très copain Gaston, on a fait une France jacobine avec une décentralisation, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un millefeuille territorial où. La communauté de communes, le pays, le département, la région, ça se superpose dans l'autre.
Et t'en as oublié la métropole.
Et la métropole. Bon, voilà. Et ça, c'est le résultat de cette constitution qui affirme qu'il y a une organisation centrale et puis qui dit que l'organisation est décentralisée. Voilà ce que ça donne. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Bon, voilà. Donc là, pour l'instant, donc jusqu'au titre premier, ce blablabla du préambule, qui contient l'article premier, la seule chose qu'il faut retenir, à mon avis, c'est qu'on a deux mots monumentaux qui sont balancés, démocratique et sociale, république démocratique et république sociale. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, c'est pas défini, on n'a aucune information là-dessus, aucune information. Et ensuite, dans le premier point, enfin, le premier point qui est en deux rubriques, on nous dit que l'égalité, c'est l'égalité devant la loi et rien de plus. Hein? Et puis on nous dit qu'on a une France jacobine et décentralisée. Voilà, c'est bien parti. Mais apparemment ça devient intéressant, c'est passionnant. Madame de Palatine.
Alors,
j'ai mis, parce que avec les conférences, tout ça, hein, bon, j'ai mis les dates hein, sur le site, il y a des dates précises, et la semaine prochaine, il n'y a rien.
Ah, ben c'est marrant.
Voilà. Il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de. Bon, il y a un creux.
La semaine d'après.
Dans la semaine d'après, oui.
Nous, on ne sera pas là.
Voilà, oui, ben oui. Ben oui, il y a les vacances, ça va, oui. Donc, semaine prochaine. Alors, on est combien aujourd'hui? On est 11. Semaine prochaine, il n'y a rien. Et 25.
Donc, nous, on ne sera pas là.
Eh ben, ce sera.
On fait
bien,
très bien.
Eh bien, mais c'est gentil.
Et ça maintient les vacances.
C'est gentil.